Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Arras.
Et bonjour Arras. On va commencer en quittant la France pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du Rhin chez nos voisins.
Pour le dire simplement, l'Allemagne est un pays fort et nous avons déjà affronté ce genre de situation. Nous y arriverons une fois encore, nous y arriverons.
C'était il y a 5 ans, le 31 août 2015, Angela Merkel qui annonçait que son pays allait ouvrir grand ses frontières aux dizaines de milliers de réfugiés qui se pressaient sur la route des Balkans devant un parterre de journalistes. Elle prononçait ces mots que je vais dire dans mon très mauvais anglais. Wir schaffen das, nous y arriverons. C'est quelques mots qui sont rentrés dans l'histoire et on se souvient tous de ces images des enfants, notamment à qui les Allemands tendaient des peluches, des centaines de migrants applaudis à leur sortie des gares de toute l'Allemagne. C'était en 2015 et ça semble si loin. Dimanche, les Allemands diront au revoir à Mouti après 16 ans à la tête de la chancellerie. Angela Merkel tire sa révérence et les Allemands vont voter des élections qui vont permettre de connaître le successeur de celle qui s'est imposée comme la femme forte de l'Europe. Natacha, qu'est-ce que vous pensez de ce moment politique ?
C'est un moment politique majeur, en effet, parce que Angela Merkel a joui d'une longévité absolument rarissime. Elle était un peu en difficulté juste avant le coronavirus, un peu affaiblie, et finalement, sa gestion de la crise lui a redonné une aura que l'on voit aujourd'hui. Et même en France, moi, ce qui me frappe, c'est la capacité de la presse française à considérer de manière totalement hagiographique le bilan d'Angela Merkel, alors même qu'il serait intéressant de l'observer non seulement du point de vue allemand, mais du point de vue français. C'est-à-dire qu'il y a des critiques, et on les lit tout de même dans la presse allemande, et il y a aussi des questions à se poser de notre point de vue à nous, mais de même que d'ailleurs les enjeux de cette élection allemande sont très peu traités véritablement dans la presse française, de même on ne se demande pas ce qu'a fait réellement Angela Merkel. On peut tout de même se poser la question de son très fort attentisme, de sa façon de gérer le tout venant et le présent sans jamais anticiper sur l'avenir, sa façon d'amplifier une politique qui est celle des intérêts allemands sans penser réellement aux enjeux européens. Et on voit que cela risque de se poser de façon beaucoup plus cruciale avec ses successeurs. C'est-à-dire que on a un peu un résumé assez facile en France qui consisterait à dire si c'est le SPD, on aura les dépenses qu'on veut, mais on n'aura pas la défense européenne. Si c'est la CDU, ce sera l'inverse. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça risque d'être très difficile. Et je pense que la question des rapports franco-allemands devrait être un des éléments majeurs de la campagne présidentielle française. Je crains que ce ne soit pas du tout le cas.
Gilles Finkelstein.
Nous y arriverons, disait Angela Merkel il y a 5 ans. Ils y sont assez largement arrivés, à tel point à réussir l'intégration de ce million d'étrangers, d'immigrés, de réfugiés de 2015, à tel point que la question de l'immigration est une question secondaire dans cette campagne. Si on se tourne non pas sur le passé et sur le bilan d'Angela Merkel, mais sur la campagne et sur l'avenir, ce qui se passe est évidemment important pour l'Allemagne, mais c'est évidemment important pour la France et pour l'Europe au moment où nous avons des investissements très importants à faire sur la transition climatique, de nouvelles règles à établir sur le budget, des questions à nous poser sur la défense européenne. Et quand on regarde la campagne depuis maintenant plusieurs mois, je crois que ce qui s'y passe est très intéressant, y compris pour nous. Vous l'avez dit, Ali, on est à...
Parce que la campagne présidentielle a commencé et
parce
que nous
la campagne
allons
présidentielle
voter dans cette
loi. Et qu'il y a des échos. Je trouve que dans une large mesure, ce qui se passe en Allemagne est une forme d'alignement de la démocratie allemande sur les autres démocraties. La volatilité est incroyablement forte. Au début de cette campagne, la CDU, le parti d'Angela Merkel, était très très loin devant. Il a perdu 15 points. Le SPD, le parti social-démocrate, était très très loin derrière. Il a gagné 10 points. Et aujourd'hui même, alors que les Allemands votent demain...
Ils votent demain pour renouveler donc
même,
les membres du Bundestag.
Il y a le tiers des Allemands qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Donc, comme dans les autres démocraties, volatilité très forte. Deuxièmement, comme dans les autres démocraties, une fragmentation du paysage politique extrêmement forte. Il y avait auparavant deux partis qui dominaient tous les autres, qui faisaient à eux deux 70-80% des voix. Il y aura aujourd'hui trois partis très importants et trois partis de second ordre. Enfin, personnalisation très importante de cette campagne. Alors même que, contrairement à la France, on n'élit pas directement, les Allemands n'élisent pas directement le chancelier, malgré tout, les idées, je crois que Natacha a raison de dire ça, les idées sont passées au second plan, et c'est la personnalité des candidats qui, pour l'essentiel, a expliqué ces variations de campagne. Donc, pour beaucoup, il y a un alignement de la démocratie allemande sur les autres, mais il y a quand même aussi, on y reviendra, des singularités, notamment pour nous Français.
Natacha Polony.
Oui, il va y avoir aussi une difficulté pour nous Français, qui est que ce qui risque de ressortir de cette élection, c'est le fait qu'on n'aura pas tout de suite le nom du chancelier. Il faut se souvenir qu'en 2017, il avait fallu 171 jours pour avoir enfin une coalition cohérente. Et le problème, c'est que déjà à l'époque, Emmanuel Macron avait assez mal calculé le moment de son discours très important à la Sorbonne sur l'Europe, c'est-à-dire qu'il espérait une réponse allemande qui ne pouvait pas venir puisqu'il n'y avait pas de gouvernement. Or là, nous risquons d'avoir la même chose, c'est-à-dire que Emmanuel Macron mise énormément sur son rôle, le rôle de la présidence française de l'Union européenne, pour des raisons qui ne sont pas que nobles, c'est aussi parce que en pleine campagne électorale, il va falloir donner l'impression qu'Emmanuel Macron a un grand projet, une fois de plus, pour l'Europe. Il risque de ne pas avoir de réponse en face et il risque au contraire de se retrouver avec une coalition qui inclura notamment des Verts assez, même s'ils sont ne sont pas aussi hauts qu'on le pensait, assez puissants, dans un moment où nous sommes en train de négocier à Bruxelles face aux Allemands, l'avenir de la filière nucléaire française, l'avenir de l'industrie de défense aussi. Il y a des tensions de plus en plus fortes sur la question de l'avion du futur avec l'Allemagne. Bref, ce qui va ressortir de ces élections est important. Je dirais que ce qui est encore plus important, c'est la question de savoir si les dirigeants français ont pris conscience du fait que le couple franco-allemand est une sympathique façon de présenter en fait un rapport de force dans lequel il s'agit de ne pas être totalement naïf.
Suite de votre analyse, Gilles, après les ressemblances, les différences.
Alors les différences, surtout les différences pour nous Français. Il y en a une qui découle de ce que vient de dire Natacha. En France, une élection présidentielle, c'est un moment de confrontation. En Allemagne, une élection est suivie nécessairement par un compromis et par la constitution d'une coalition. Ce qui est certain, quel que soit le résultat que l'on ne connaît pas. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas un parti qui sera en situation de gouverner seul. Ce qui est probable, c'est qu'il n'y aura pas deux partis, même les deux plus gros, s'ils font une coalition, qui auront une majorité à eux deux. Et donc, il semble qu'on se dirige vers une coalition au moins à trois, d'où ce que l'on a vécu dans la précédente, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron et ce que l'on risque de vivre à nouveau au moment où la France exercera la présidence française, la présidence de l'Union européenne, c'est-à-dire des mois et des mois et des mois pour constituer une coalition. Normalement, le chancelier sera issu du parti qui arrivera en tête, mais ce n'est pas acquis. Et la deuxième différence par rapport à la France, très importante, c'est que en France, une élection, c'est d'abord un moment de rupture, un moment de changement. Cette élection en Allemagne, c'est une élection de continuité. Parce que Angela Merkel a 80%
de popularité. 80%
de popularité. 80%, parce que pour la première fois, le chancelier allemand a décidé de ne pas se représenter. Et que, ce faisant, tous les candidats essayent de s'inscrire dans les pas d'Angela Merkel. Et le paradoxe est que Olaf Scholz, qui est le candidat du SPD, donc social-démocrate, eh bien, c'est lui qui a réussi au prix d'une transgression étonnante, à la fois politique et symbolique, à être celui qui apparaît comme étant le continuateur d'Angela Merkel. Vous savez quel était le slogan de son affiche ? Il peut être chancelière.
Il peut être chancelière. Les Allemands votent demain. Le duel continue.
Le grand face-à-face, le duel.
Nous aurions, depuis le début de la rentrée, cramé la caisse, laissé filer les déficits, dépensé sans compter, pratiqué la politique du chéquier. Mensonge, mensonge. Toutes les dépenses qui ont été annoncées soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, nous les avions anticipée et annoncée avec Olivier Dussopt depuis juillet. Nous sommes, je le redis, des gestionnaires sérieux, des gestionnaires responsables, attachés à la maîtrise des finances publiques.
C'était Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui présentait cette semaine, mercredi, le projet de loi de finances de 2022, le dernier du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un discours où il n'était pas question d'impôts, mais qui était un discours qui défendait la politique menée et cette idée qu'il n'était pas quelqu'un qui aurait cramé la caisse, le président de la République, le gouvernement, qu'il n'y avait pas eu de dépenses sans compter, je cite Bruno Le Maire, de politique du chéquier. Gilles Finkelstein, vous vouliez revenir sur ce sujet, pourquoi ?
Ouais. Alors, on pourra revenir sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron sur la politique économique et fiscale, et peut-être réfléchir aussi aux enjeux qui sont derrière. Mais si on est simplement sur ce moment, la présentation de ce budget, on sort d'une crise sanitaire dans laquelle des sommes folles, légitimes, mais des sommes folles ont été engagées et qui ont beaucoup bousculé nos repères. Je crois qu'on est... C'était le quoi qu'il en coûte. Et nous sommes, je crois, dans un moment de laisser-aller. De laisser-aller du gouvernement, peut-être pas cramer la caisse, comme le dit Bruno Le Maire, mais de laisser-aller sur la forme. Pour la première fois, un budget a été présenté sans que des dépenses essentielles couvrant des milliards d'euros, aient été incluses dans le budget. Je pense aux dépenses du programme d'investissement ou aux revenus d'engagement pour les jeunes. C'est pas encore arrêté, ce n'est pas dans le budget, à tel point que le Haut Conseil aux finances publiques, qui est un organisme indépendant chargé d'émettre un avis sur le budget, a considéré que le document était incomplet, daté et tardif, je le cite, et n'a pas pu s'exprimer sur la sincérité du déficit. Donc, laisser aller sur le fond, sur la forme, laisser aller aussi sur le fond. On est quand même dans un moment dans lequel les milliards coulent à flot, dans un mélange de pragmatisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépenses, je crois, qui prises une à une, sont tout à fait légitimes et répondent à des nécessités, et puis d'opportunisme, parce qu'il n'a échappé à personne que nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle. Donc, je termine juste d'un mot, laisser aller du gouvernement, mais laisser aller des candidats. Vous regardez les uns et les autres, là aussi, les milliards tombent, et laisser aller des Français. Quand on regarde la hiérarchie des préoccupations des Français, et qu'on les compare à celles des campagnes précédentes, il y a 10 ans, les déficits, la dette, c'était une des préoccupations majeures. Là, c'est une préoccupation beaucoup plus secondaire. Là aussi, la crise sanitaire est passée par là et les repères ont bougé.
Natacha.
Oui, clairement, les repères et la façon de penser ces dépenses ont bougé. On ne peut pas quand même en faire grief aux Français à qui on a expliqué pendant des années qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il fallait serrer la ceinture, que l'austérité était nécessaire, alors même que cette austérité plombait la croissance. Et tout à coup, en effet, on a trouvé l'argent. Évidemment qu'on connaît tous les mécanismes qui permettent cela et que c'est tout à fait légitime, mais il y a là un paradoxe. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les dépenses actuelles sont catégorielles, ce qui laisse penser tout de même qu'il y a là des visées électoralistes un petit peu problématique. Et d'ailleurs, on était cette semaine dans un grand moment de communication préélectorale, c'est-à-dire qu'on avait à la fois ces dépenses et puis une communication gouvernementale sur les baisses d'impôts. Par exemple, le Parisien, le 21 septembre, publiait un petit graphique fourni clé en main par la Direction Générale des Finances Publiques de Bercy pour expliquer que les baisses d'impôts avaient bénéficié à tous les Français qui avaient gagné du pouvoir d'achat et surtout quelques secteurs les plus pauvres, les mères célibataires gagnant 30 000 euros, alors qu'un cadre sup, lui, n'avait pas gagné tellement plus. En fait, ils ont juste oublié dans leur calcul d'intégrer tous ceux qui ont bénéficié de la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune mobilière, l'imposition forfaitaire des revenus mobiliers, qui montre qu'en fait, ceux qui ont le plus gagné, c'est quand même les très 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 riches. Mais ça, curieusement, ça n'apparaissait pas dans le graphique. Et donc, on se retrouve avec une communication qui consiste à dire vous allez avoir tous de l'argent en fonction de ce que vous voulez, vous en avez tous eu avant et évidemment Emmanuel Macron a permis d'enrichir, d'aider notamment les classes moyennes et les classes populaires, sans que jamais on ne voit réellement de cohérence, sans qu'on ne rappelle qu'il y a eu une politique qui au fond était une politique pas si sociale que ça et qui n'a créé aucun emploi puisque ces sommes-là ne sont pas allées dans l'économie productive.
Gilles Finkelstein qui lève les yeux au ciel.
Non, le bilan du quinquennat sur le plan économique et fiscal n'est pas si simple à établir parce que, chacun l'a vu, il y a eu des temps extrêmement différents dans ce quinquennat. Chacun se souvient qu'au tout début, tout de suite après l'élection d'Emmanuel Macron, un des premiers actes qui a marqué l'opinion était une économie de 100 millions d'euros sur les APL pour les étudiants. Cette semaine, ou les derniers jours, on a eu 10 milliards de dépenses supplémentaires. Si on essaye de ramener ces chiffres qui sont abstraits au niveau d'un foyer, de nos économies à nous, ça veut dire qu'au début du quinquennat, nous nous disions que dans l'année, il nous manquait 1000 euros et qu'il fallait faire attention. Et que 5 ans plus tard, alors que les choses n'ont pas fondamentalement changé, nous pouvions dépenser 100 000 euros supplémentaires. C'est dire le changement de monde qui s'est opéré en 5 ans. Après, le bilan, il est difficile parce que d'un côté, il faut reconnaître que la croissance... alors évidemment, il y a eu un choc avec la crise sanitaire, mais la croissance est plutôt, est très forte. C'est sans doute la croissance la plus forte de ces 50 dernières années.
On n'a pas rattrapé ce qui était notre niveau d'avant Covid.
Bien sûr, que le chômage, malgré tout, baisse un peu, que les impôts, globalement, ont baissé de 50 milliards, dont 25 milliards pour les ménages, mais d'un autre côté, que le procès en injustice qui est instruit par la gauche pour les raisons qu'a évoqué Natacha, est juste, et que le procès en laxisme qui est instruit par la droite, pour les raisons qu'on a invoquées, est juste aussi. Et je conclue en disant que je crois que la leçon qu'on doit en tirer, c'est qu'il ne faut pas que ce débat économique passe à la trappe dans l'élection présidentielle. Bercy a fait ce qu'il est obligé de faire chaque année, c'est-à-dire qu'on envoie à Bruxelles des prévisions pour les 5 prochaines années. Et donc, dès l'année prochaine, il y a de très fortes réductions de dépenses publiques qui sont annoncées. On ne sait pas où. Le président du Conseil d'analyse économique a expliqué il y a eu beaucoup de sucré. Il va falloir qu'il y ait un peu de salé. Et donc, il faut que ce débat, il ait lieu. Quel est l'objectif dans les 5 ans qui viennent? Quel est le niveau de dépenses, de dettes qui est soutenable? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de dettes parce qu'il y a le climat? Est-ce qu'il faut qu'on stabilise? Est-ce qu'il faut réduire? Il faut avoir ce débat-là.
Le sucré salé, après l'émission de François-Régis Gaudry, ça a s'imposé. Dernier moment du duel avant de retrouver Caroline Fourest.
Le grand face-à-face, le duel.
Les États-Unis n'ont pas d'alliés plus proches ou plus fiables que l'Australie. Nos nations sont solidaires depuis très très longtemps. Et nous pouvons compter les uns sur les autres. Nous sommes reconnaissants que notre partenariat ait permis d'accomplir ce que nous avons accompli ensemble pendant 70 ans.
Le président américain Joe Biden, qui participait à une visioconférence avec les premiers ministres australiens Scott Morrison et britannique Boris Johnson, c'était il y a quelques jours depuis la Maison Blanche. Il y a évidemment des tensions, mais malgré tout un réchauffement depuis cette semaine, depuis mercredi, entre Paris et Washington, puisque Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé avec un échange téléphonique qui est perçu comme une première étape de la réconciliation. On peut dire ça comme ça, Natacha? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait rire?
Non, mais on a tous compris qu'il s'agissait d'une façon très sympathique d'habiller une déculottée. C'est-à-dire que on a quand même un communiqué d'une hypocrisie totale pour nous expliquer que les relations entre la France et les États-Unis sont formidables, que on s'aime d'amour, que la place de la France et de l'Europe dans la zone Indo-Pacifique est essentielle. Et en fait, tout est dans les nuances de ce communiqué. C'est-à-dire la place de la France et de l'Europe, c'est une façon de dire que la France seule, avec son espace maritime qui est le deuxième au monde, ce qui est absolument majeur, n'a pas vocation en fait à être la seule, c'est avec l'Europe. Et derrière, on a la petite sucrerie, là aussi, c'est l'idée que tout ça se fait sur la base d'une défense européenne en collaboration avec l'OTAN. Alors là, vous avez énormément de gens en Europe qui sont en pamoison en expliquant que ça y est, c'est formidable. Enfin, il y a l'idée d'une défense européenne, puisque c'est en collaboration avec l'OTAN, alors qu'avant c'était au sein de l'OTAN. On se marre. C'est-à-dire, c'est une façon de permettre à Emmanuel Macron de sauver la face. Concrètement, nous avons perdu. Nous avons perdu non seulement ce contrat, mais le partenariat qui allait avec. Et il faut lire la tribune de l'ancien Premier ministre australien dans Le Monde qui tire à boulet rouge sur le choix de son pays en expliquant que c'était pas seulement un contrat d'armement, c'était un partenariat stratégique qui permettait justement d'échapper à l'inféodation aux États-Unis. Donc tout ça disparaît et la France ferait bien de s'intéresser largement, par exemple, à ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie. Ça passe totalement à l'as. Or, le référendum en Nouvelle-Calédonie est important parce que derrière, il y a la place de la France et de son espace maritime.
Gilles Finkelstein.
Oui, ce qui s'est passé avec ce contrat est un événement peu commun. Peu commun par l'ampleur de ce contrat, peu commun par la brutalité de la rupture et peu commun par la brutalité et la virulence des réactions. Vous dites un réchauffement, c'est un petit réchauffement après une grosse tension. Il faut essayer de démêler les fils et on n'y est pas encore complètement, et donc il faudra le faire de ce qui s'est passé. A priori, il semble quand même que ce ne soit pas une décision technique qui a été prise, au sens où le choix final du sous-marin à propulsion nucléaire américain va arriver plus tard, va coûter plus cher et sera plus bruyant. Donc c'est une décision pour partie économique, c'est plus de 50 milliards qui sont en jeu, mais surtout stratégiques. Et du point de vue, si on se place non pas du point de vue français, un instant, mais si on se place du point de vue australien, qui sont malgré tout les premiers concernés, d'une certaine manière, le choix qui est fait est compréhensible. L'Australie est un pays de taille moyenne qui a un très gros voisin, la Chine, et qui a un voisin qui est très pressant et même qui est très oppressant, qui exerce des pressions absolument considérables sur elle, et l'Australie est un pays qui résiste à la Chine. Bon, et donc, au moment où il faut nouer une alliance, eh bien, quand les États-Unis arrivent, eh bien, ils sont plus gros que la France. La question est, quelles sont les leçons que nous devons en tirer ? Et je crois qu'il y a une première leçon qui est une leçon de lucidité. Lucidité sur les États-Unis. Leur fiabilité est faible, leur habileté est à peu près nulle,
oui.
Mais lucidité aussi sur nous. Nous sommes une grande puissance, contrairement à ce que l'on dit, mais nous ne sommes pas une superpuissance. Et donc, quand le jeu se durcit, eh bien, à ce moment-là, et donc, quelle est la conclusion qu'on en tire ? C'est lucidité et de la continuité. Continuité pour essayer, petit à petit, de construire cette Europe de la défense. C'est difficile, mais si on ne le fait pas, eh bien, c'est pas
encore
en se retirant tout seul, en sortant de l'OTAN, comme cela a été évoqué, qu'on y arrivera.
On reprendra évidemment ce débat. On a du mal à penser que nous ne sommes pas une superpuissance ici dans la grande salle des fêtes d'Arras, où tout inspire justement la grandeur et la force. À suivre dans le grand face-à-face version XXL, le débat avec Caroline Fourest.